Je viens vous raconter quelque chose qui s'est passé il y a assez longtemps. C'était très exactement le mardi 24 août 2021, à 10h du matin. J'ai vécu la cérémonie d'obsèques la plus étonnante, la plus surprenante, en fait la plus déjantée de ma vie. J'en ai vécu quelques-unes, hélas, des cérémonies d'obsèques, et pas que dans le cadre de mon ministère, mais alors des comme ça, honnêtement, jamais. C'était les obsèques de l'un de mes oncles. Et dès le parvis du crématorium, l'ambiance était donnée, puisque un des employés des pompes funèbres s'est approché du frère du défunt, donc un autre de mes oncles, et il lui dit « C'est vous qui prenez la parole pour les obsèques de votre frère ?» Et mon oncle répond « Bon, je peux dire deux mots, mais enfin, j'ai rien préparé. » Et le gars des pompes funèbres lui dit « Vous savez, le mieux, c'est ce qui sort du cœur. » Et mon oncle lui répond « Pas là, non. » Et effectivement, il a pris la parole. Alors, la suite était intéressante. Il faut dire que mon oncle, le défunt, donc, n'était pas un personnage facile. Dans sa jeunesse, il s'est retrouvé en prison en Thaïlande pour trafic de drogue. Il en est ressorti in extremis parce que mon grand-père a fait le chèque qu'il fallait faire pour soudoyer ceux qu'il fallait soudoyer. Il a passé sa vie dans des excès en tout genre qui n'ont pas manqué de mettre toute la famille à l'épreuve. Alors, voilà une petite reconstitution du discours de son frère aux obsèques. Je peux vous la donner d'autant plus facilement que moi, ça m'a tellement impacté que j'ai pris des notes à la fin. Je me suis dit, il ne faut pas que j'oublie ça, parce que ça, quand même, ce n'est pas tous les jours. Et donc, voilà, en gros, ce qu'il a dit. Il a dit, je regarde défiler les photos, là, depuis tout à l'heure. Elles sont superbes, hein. Vraiment, c'est comme ça qu'on veut se souvenir de lui, jeune, beau, charismatique. Mais ce n'est pas comme ça qu'il était. Il a passé sa vie à se détruire, à détruire les autres, parce que comme il n'aimait pas sombrer tout seul, il s'arrangeait toujours pour entraîner quelqu'un avec lui. Alors d'abord, je voudrais dire pardon à celles et à ceux qu'il a entraînés avec lui dans sa chute. Après, il faut reconnaître qu'il était très talentueux. Dans la famille, personne n'a réussi à tenir tête à notre père comme lui l'a fait, ni à lui soutirer autant de pognon d'ailleurs, mais ça, c'est une autre histoire. Alors voilà, franchement, je suis soulagé. Pour la société d'abord, et pour lui ensuite, parce que les dernières années ont été très dures. Voilà la teneur du discours. Alors évidemment, les pompes funèbres habituées à des discours un peu plus lisses et convenus ont quelque peu ramé pour prendre la suite de la cérémonie. Mais vous comprendrez peut-être pourquoi, à un moment donné de ma vie, j'ai coupé les ponts avec cet oncle. Et je parle là du défunt. Ne vous méprenez pas, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. En fait, pour tout dire, c'était quelqu'un que j'admirais étant jeune. C'était vraiment le bad boy de la famille, quoi. Il avait une vie palpitante, il était beau, les filles lui tombaient dans les bras comme des mouches, il roulait sur un superbe 7,5 Kawasaki, on le remarquait partout où il passait, il ne se souciait pas des convenances, il s'autorisait tout ce qui était interdit aux autres. Bref, pour l'adolescent que j'étais, c'était vraiment waouh, c'était la classe, quoi. Il avait une vie super rock'n'roll, quoi. Mais avec le temps, il a commencé à payer le prix de ses excès. Jeune adulte, alors qu'il avait déjà perdu beaucoup de sa superbe et qu'il entamait sa descente aux enfers, et je pèse mes mots, j'ai commencé, moi, à nouer une relation avec lui, parce qu'il me faisait de la peine et parce que je l'aimais bien. Et je me rappelle notamment d'un soir où il m'avait invité à son anniversaire, un truc glauquissime. Il était devenu complètement parano, il était alcoolique, il avait perdu tous ses amis, mais moi, j'étais là. J'étais là à l'écouter me raconter des histoires anciennes dont il était le héros, toutes plus invraisemblables et pathétiques les unes que les autres. Mais j'étais là parce que comment laisser tomber un type aussi mal en point ? Comment laisser tomber un type aussi mal en point ? Jusqu'au jour où j'ai compris. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. J'étais dans mon appartement là-bas à Pogna, dans le Puy-de-Dôme. Je dormais tranquillement parce que je travaillais le lendemain et que, accessoirement, il était 3h du matin. Et là, le téléphone sonne. Alors évidemment, je sursaute, je m'inquiète. Qui peut m'appeler comme ça au milieu de la nuit ? Et vous l'avez deviné, c'était lui. Il était complètement saoul à l'autre bout du fil. Et c'est là que j'ai compris. J'ai compris que si je continuais à le fréquenter, du haut de ma petite vingtaine d'années, lui qui en avait plus du double, en fait, il me boufferait. Il n'aurait aucune limite. Et ce n'est pas moi qui le ferais monter, c'est lui qui me ferait descendre. Il y avait sans doute de bonnes choses à faire avec lui, mais je n'étais pas la bonne personne pour les faire. Alors moi, je l'ai laissé en plan et je me suis tenu éloigné de lui autant que j'ai pu jusqu'à sa mort. Est-ce que c'est dur ? Est-ce que c'est radical ? Est-ce que c'est exagéré ? Est-ce que j'ai manqué de compassion ? On m'a reproché 2-3 fois un léger manque de nuance dans mes prédications. On m'a dit que c'était parfois un peu trop tranché, un peu trop carré. Alors, j'ai envie de vous dire ceci, la nuance, elle existe, évidemment. Mais je ne l'offre pas de là où je me trouve. Je ne l'offre pas du haut de la chair. Dans l'accompagnement pastoral, en un à un, dans la réalité du vécu de chacun, on peut parler des nuances parce que nos existences sont complexes. Mais du haut de la chair, la nuance, je vous le dis, comme ça vous le savez, vous ne serez pas surpris les prochaines fois, je vous la laisse. Je la laisse entre vos mains, à vous. C'est à vous de nuancer ce qui a besoin de l'être. Je crois que de là où je me trouve, ma responsabilité, c'est d'offrir un discours clair, parce que quand vous êtes face à quelqu'un comme mon oncle, lui, la nuance, il s'engouffre dedans pour mieux vous tirer par les pieds dans les abîmes. Et évidemment, il ne s'agit pas de lui en tant que personne. Il s'agit de celui qui agissait à travers lui. Or, il faut être ferme face à l'ennemi de nos âmes. Et c'est de ça dont on va parler ce matin. On va parler de comment, concrètement, on peut combattre l'action de Satan dans nos vies. Mais avant, il faut que j'aille chercher la zapette. Nous irons donc lire en Colossiens 3, versets 1 à 11, mais d'abord je vais prier. Seigneur, la vie est faite de hauts, de bas, de choses légères, de choses lourdes, de combats à mener, de moments où on se laisse porter et de moments où on rame dur, où c'est difficile. Seigneur, dans cette vie-là, tu nous as laissé ta parole. Ta parole qui est lumière, qui est vie, qui nous guide, qui nous exhorte, qui nous bouscule, qui vient nous chercher dans nos retranchements, qui vient nous chercher là où on ne veut pas qu'elle vienne nous chercher. Seigneur, dispose nos cœurs maintenant. Nous voulons être à ton écoute, entendre ce que tu as à nous dire ce matin, parce qu'en fait, on est là parce qu'on est disposé à être bousculé, disposé à se faire secouer, Seigneur, par ta parole, parce qu'on sait qu'elle est bonne pour nos vies, même quand elle est douloureuse, même quand elle nous dérange. Seigneur, voilà, on te le dit, on est ouvert et disposé. Que tu fasses ton œuvre en nous maintenant. Amen. Alors, on poursuit notre chemin dans l'Épître aux Colossiens, qui nous dit ceci. C'est Paul qui parle et qui dit « Si donc vous vous êtes réveillés avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non pas à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Quand le Christ, votre vie, se manifestera, alors vous aussi, vous vous manifesterez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui n'est que terrestre, l'inconduite sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'avidité qui est idolâtrie. C'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. C'est à cela que vous vous adonniez autrefois lorsque vous viviez ainsi. Mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela. Colère, animosité, malfaisance, calomnie, paroles choquantes sortant de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Vous vous êtes dépouillés de l'homme ancien avec ses agissements et vous avez revêtu le nouveau qui se renouvelle en vue de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni homme libre. Mais le Christ est tout et en tous. Alors, si on lit ça un peu vite, on peut se dire, bon, bah, il faut arrêter de faire des trucs qui nous font du mal ou qui font du mal aux autres. Voilà, c'est pas compliqué. Et c'est un bon résumé, ma foi, mais si vous avez suivi depuis le début cette série de prédications sur l'Épître aux Colossiens, vous aurez peut-être remarqué que Paul va un petit peu au-delà des évidences du type « le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille » et tout ça. Et si vous n'avez pas suivi le début de la série, ou qu'elle est un petit peu lointaine, parce qu'il y a eu tout le temps de l'avant depuis la dernière fois, voilà un petit résumé des épisodes précédents. Jusqu'ici, Paul nous a parlé de la nécessité de connaître Dieu pour entrer dans une spirale vertueuse qui va changer notre comportement, donc nous faire porter du fruit et donc nous faire grandir dans notre connaissance de Dieu. Il nous a également parlé de la nécessité d'être bien établi en Christ, bien fondé, d'être au clair sur qui est Jésus et sur qui je suis en lui. Et il nous a dit que ça passe aussi par le fait de répondre à son appel par un engagement ferme à le suivre, un engagement qu'on manifeste en, formellement, je dirais, en entrant dans les eaux du baptême. Alors, nous changeons de maître, nous devenons une nouvelle créature, nous changeons de statut devant l'ennemi, de soumis que nous étions à son influence, voilà que nous sommes maintenant assis en Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute puissance et de toute autorité démoniaque. Ensuite, on a vu deux tentations qui guettent le chrétien, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Deux tentations. La première, c'était la religiosité, qui consiste à rétablir dans nos vies des lois qui, en fait, ont été rendues caduques par le sacrifice du Christ. Et puis, la super-spiritualité, qui consiste peut-être à exalter le merveilleux ou, au contraire, à vivre dans l'ascétisme au point d'en tirer orgueil. Et maintenant, Paul vient enfoncer le clou parce que les défis qu'on a à relever ne s'arrêtent pas, évidemment, à ces deux écueils. Et il commence par nous dire « Vous êtes morts ». C'est ce que nous dit le verset 3. « Vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu ». Alors parfois, c'est très ennuyeux d'être mort. Là, il n'y a pas de son. Top, je reviens en arrière. Voyons voir si le son arrive.
Il marche, il respire. À 67 ans, Maurice Schaffhauser est un homme bien vivant. Pour l'administration, en revanche, il en est autrement.
Je reçois un coup de fil de la caisse de retraite de ma femme. On me dit « je suis présumé décédé ». Donc je n'ai pas compris, j'ai donné le téléphone à mon fils, et mon fils, il a bien confirmé que je suis bien vivant, que je suis assis à côté de lui.
Le coup de fil intervient deux semaines après le décès de son épouse en septembre dernier. Pour la caisse de retraite, l'acte de décès a été mal rédigé et serait au nom du mari. Pourtant...
J'ai pris l'acte de décès en main de ma femme, qui est bien rédigé au nom de ma femme et non à mon nom.
Mais qu'importe, déclaré mort, sa carte vitale est aussitôt désactivée. Il n'est plus couvert, doit payer 200 euros de frais de santé et enchaîne les appels auprès de l'assurance maladie pour rétablir la situation.
L'assurance maladie, bonjour.
En plein deuil.
Problème de carte vitale.
Voilà, donc si vous êtes mort, tapez 1. Voilà. Donc là, bien sûr, c'est quand même très embêtant. Parce que ce monsieur est mort pour l'administration qui lui doit des sous, donc c'est assez ennuyeux. Mais il y a d'autres situations où ça peut être très intéressant d'être mort. Par exemple, peut-être qu'au moment de recevoir son avis d'imposition, ce monsieur sera content de faire valoir son propre certificat de décès à l'administration. Rien que d'y penser, moi, ça me fait rire, de l'imaginer, venir, ben non, je suis désolé, je suis mort, merci, au revoir. Il aura le plaisir de pouvoir le remettre en main propre, en plus, ce qui est quand même pas commun, bon... Voilà. Donc en fait, ça dépend à quoi vous êtes mort. Ça dépend vraiment à quoi vous êtes mort. Et pour ce qui nous concerne, Paul précise sa pensée en Romains 6, verset 2. Il dit « Nous qui sommes morts pour le péché ». Nous qui sommes morts pour le péché. C'est pour le péché que nous sommes morts. Ça signifie que le péché ne peut plus rien nous réclamer, comme l'administration. Elle peut rien nous donner, mais elle peut rien nous réclamer non plus. On lui doit plus rien. Notre dette a été payé. Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. On n'a plus aucune part avec les passions terrestres. L'ennemi n'a aucun droit sur nous. Seulement voilà, vous êtes mort, mais le péché, lui, il n'est pas mort. Donc, dit Paul, faites mourir. Faites mourir ce qui n'est que terrestre. Rejetez tout ça, dit-il au verset 8. Mais alors, si je suis mort au péché, si l'ennemi n'a aucun droit, si je n'ai plus aucune part avec les passions de ce monde déchu, si ma vie est cachée en Christ, comment est-ce qu'il se fait que j'ai encore maille à partir avec le péché ? Comment ça se fait ? Alors, on va essayer d'illustrer ça, on va voir comment ça se passe. Donc, je vais faire appel à Anna et à Coralie qui vont venir m'aider à illustrer tout ça. Et là, on rentre dans un truc de haut vol. Hein. Je vous dis, j'espère que ça va fonctionner parce que je tiens le micro, je gère la tablette, j'ai deux personnes. J'ai des cordes, des mousquetons, tout ce que vous voulez. Bon, bref. Mais on va essayer. Donc, à ma droite, j'ai Coralie, que vous connaissez, voilà, une personne lambda pour aujourd'hui, parce que ce n'est pas une personne lambda sinon. Et puis, j'ai Anna, qui est, vous vous en doutez pas, mais c'est Jésus. Voilà, elle est Jésus. Et moi, j'ai gardé le beau rôle pour moi. Moi, même le dire, c'est pénible, hein. C'est, je représente Satan. Pas beau, hein. Voilà, mais il en fallait un et je ne pouvais évidemment pas décemment confier ce rôle à quelqu'un d'autre. Donc, la chose se passe comme ceci. Il faut que je m'équipe, hein, vous voyez. Ça, c'est le péché. Et comme nous vivons dans un monde déchu, dans un monde dans lequel le péché est entré, eh bien, et que ce péché affecte toute la création, l'ensemble de la création est affecté par le péché dans tous ses recoins, eh bien nous, quand nous naissons, nous faisons partie de la création. Et donc, voilà comment nous naissons, voilà comment ça se passe. Et donc, bah, je la trimballe où je veux, voilà, je fais ce que je veux. Je me balade, elle me suit. Alors des fois, elle se rend compte quand même que ce n'est pas terrible comme situation. Elle voit bien que ça cause des problèmes. Donc elle essaye par ses propres moyens d'aller voir ailleurs. Mais non, parce que je suis plus fort. Si, si, je suis plus fort. Vraiment. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et elle n'a pas le choix, quelque part, que de revenir toujours au péché parce que ça fait partie de sa nature, ça fait partie de sa nature humaine, d'être humain déchu. Elle pêche donc conformément à sa nature. Et puis un jour, un chrétien arrive. Et ce chrétien, ce bon chrétien, voit que Coralie, elle galère quand même. Hein. C'est pas facile, sa vie, c'est compliqué. Elle prend des mauvaises décisions, elle s'oriente dans des chemins de traverse, voilà, qui vont pas, et elle galère. Et donc, ce chrétien lui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ, quoi. Et elle lui dit, t'es pas au courant que Jésus est mort pour toi ? T'es pas au courant que Jésus a pris tes péchés sur lui, à la croix, et que toi, tu peux vivre libre ? Et puis, il lui dit, est-ce que tu crois ça ? Et là, y a deux options. La première, c'est, c'est sympa, mais non, elle n'y croit pas, en fait, hein. Elle n'y croit pas, elle se dit c'est vraiment des contes pour adultes attardés, cette affaire-là, et donc elle passe son chemin, et puis sa situation ne change pas, c'est toujours la même, ça ne bouge pas. Voilà. La deuxième option, c'est elle croit. Elle reconnaît son péché devant Dieu, elle reconnaît qu'effectivement, là, il y a un problème, et puis elle reconnaît Jésus pour ce qu'il est, son sauveur et son Seigneur. Et alors, dans ce cas-là, le salut devient effectif dans sa vie. Et donc, Jésus, c'est toi, prends sur lui. Vas-y. Faut t'accrocher. Ouais. Ah, t'as nulle part. Ah oui, ça, c'est une très bonne illustration aussi, parce que il se trouve qu'elle n'a nulle part où accrocher le mousqueton, ce qui est très bien, parce qu'à ce moment-là, en fait, ça, c'est ce qui s'est passé à la croix, en fait. On ne voit pas bien, mais c'est ce qui s'est passé à la croix. Satan à la croix pense qu'il a gagné là. Il tient Jésus, quoi. C'est quand même pas rien. Il tient Jésus. Sauf que la Bible nous dit que justement, il n'avait nulle part où s'accrocher. il n'avait nulle part où s'accrocher. Et ça, c'est la résurrection qui le montre. Il n'avait nulle part où s'accrocher, et donc Jésus, évidemment, n'est pas accroché à Satan. Alors non, toi, tu gardes ça quand même, merci. Voilà, c'est bien. Voilà comment ça se passe. Quant à nous, ou quant à Coralie en l'occurrence, Jésus nous appelle. Et en réponse à son appel, on s'engage avec lui par le baptême. Et vous êtes nombreux à être témoins que Coralie s'est engagée avec Jésus par le baptême. Voilà. Donc là. C'est de l'illustration de haut vol hein, quand même. Hein. Vous avez vu ça ? C'est, voilà. Et donc là, on se dit, tout est bien qui finit bien. Voilà, c'est super. Coralie, c'est bon, elle est dans les mains de Jésus et tout va bien, il n'y a plus de problème. Sauf que moi, je ne suis pas très content de là où je suis, évidemment. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'envoie des tentations vers Coralie. Je lui dis, oh, allez, regarde, quand même, hein, regarde. Voilà, tu vois, hein, je fais bien la tentation. On la voit bien, là, tac. Et donc, à chaque fois que Coralie répond à l'une de ses tentations, elle pêche. Voilà. Non, non, mais j'insiste, tu pêches. Voilà. Elle pêche. Voilà. Tu gardes. Voilà. Tu gardes ça. Non, non, vraiment. Non, non, tu pêches. C'est comme ça. Donc là, il y a un petit peu un petit conflit de loyauté, quoi, un conflit d'intérêt. Elle est toujours fermement accrochée à Jésus parce que là, pour le coup, le mousqueton est bien accroché. Là, c'est voilà, c'est ferme. Voilà. Elle appartient à Jésus, mais il y a quelque chose dans sa vie là qui vient la freiner un peu, qui la bloque un peu, pas mal. Voilà, comme ça. Et si en plus j'arrive avec ce mensonge redoutable qui dit ben, « tu vois bien, en fait, tu vois bien que tu es pécheur, tu le vois bien que tu es coincé, tu vois bien qu'en fait, tu n'appartiens pas vraiment à Jésus », et qu'elle y croit, alors il se passe un autre truc. Il se passe un autre truc, c'est qu'elle appartient toujours à Jésus. Il y a un pauvre petit nœud mal fichu ici. N'empêche que sa main, elle est pour moi. C'est moi qui contrôle cette partie-là de sa vie. Cette partie-là de sa vie, même si elle appartient à Jésus, même si Jésus règne, c'est moi qui fais ce que je veux avec. Voilà comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'elle devrait faire, Coralie, d'après vous ? Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Elle demande à Jésus de la délier. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là-haut ? Faites mourir. Ah, quelqu'un d'autre lève le doigt, vas-y. Oui, alors ça, c'est un bon verset biblique, effectivement. Ça, c'est pour ne pas retomber, surtout, je pense, effectivement. Si ta main gauche, là, pour le coup, ce n'est pas la main droite, mais c'est la main gauche, te fait chuter, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux rentrer avec une main en moins que d'aller tout entier dans la GN, effectivement. Alors, oui, ça, pour éviter la tentation, en tout cas, il y a quelque chose de radical, oui. Elle peut chanter, libérer, délivrer, oui. Ouais. Ben, ça va par là, n'empêche. Ça va par là, en fait. Elle va venir affirmer ce qui est vrai dans sa vie. Et ce qui est vrai dans sa vie, c'est que moi, j'ai aucun droit sur elle. J'ai aucun droit sur elle. Elle appartient à Jésus-Christ. Moi, je peux juste essayer de lui faire croire autre chose. Mais elle va devoir affirmer ça, en fait. Elle va devoir se repentir d'abord d'avoir cru un mensonge. Et elle va devoir réaffirmer son appartenance à Jésus-Christ. Et si elle fait ça, voilà. Et notez bien que c'est elle qui défait ce lien. C'est elle. Et c'est elle, merci, vous pouvez disposer, c'est très gentil. Voilà, tu peux suivre Jésus jusque dans l'assemblée, merci. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et donc, nous avons à le croire qu'on est libre et à le vivre. On dirait que je fais du théâtre là, un petit peu en illustrant ça comme ça, évidemment. Ça fait un peu théâtre. Mais en vrai, c'est pas une image, en fait. Hein. En tout cas, pour ma part, c'est exactement dans ces termes-là que je combats, que je mène le combat spirituel. Et le résultat de ça, eh bien, il est celui qui est promis en Jacques 4, verset 7, que j'aime bien citer parce que je trouve que c'est un verset fort, qui dit « Soumettez-vous à Dieu, combattez le diable et il fuira loin de vous. » En Christ, je suis une nouvelle créature. En Christ, je suis une nouvelle créature. L'ennemi vient me mettre mon péché sous le nez pour tenter de me faire croire que je suis toujours captif. Mais la vérité qui nous est annoncée dans la parole, c'est que je suis saint. Je suis saint. Vous êtes saint. Nous sommes mis à part par Dieu pour sa gloire. Nous sommes revêtus de la justice du Christ. Et ça, c'est notre nouvelle identité. C'est la mienne et c'est la vôtre aussi. Alors parfois, vous péchez. Évidemment, moi aussi, mais qu'on ne se fasse pas berner. Si nous appartenons à Christ et nous lui appartenons si on lui a donné notre vie, notre péché, c'est un accident de parcours. Contrairement à avant que vous ne connaissiez Christ, le péché est dorénavant pour vous contre nature, contre nature. Et quand je dis vous, de qui je parle ? Est-ce que je parle des super spirituels qui sont plus proches de Dieu parce qu'on les voit là exaltés au culte ou au contraire parce qu'on les voit super stricts avec eux-mêmes, avec une bonne moralité, voilà, gardien de la bonne morale ? Est-ce que je parle de ceux qui font tout bien comme il faut, qui respectent tout ce qu'on attend d'un bon chrétien qui sait bien se tenir ? Est-ce que je parle de ceux qui ont une très bonne connaissance de la Bible et qui brillent peut-être dans les assemblées parce que, voilà, ils connaissent des versets par cœur, etc. ? Eh bien, Paul nous dit, il n'y a là ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni homme libre, mais le Christ est tout en tous. Donc, ce n'est pas pour quelques-uns, ce n'est pas pour des super chrétiens, c'est pour tout le monde, c'est pour chacun d'entre nous, c'est pour tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Parce que Jésus a accompli tout ce qu'il y avait à accomplir pour que nous puissions vivre libres du joug de l'ennemi. Alors, si vous avez envie de goûter à cette liberté que Dieu donne, petit placement de produit, il reste des places à la formation de la semaine prochaine. Ce n'est pas trop tard pour vous inscrire, ça se passe sur libéré.fr, et voilà, il y a juste à aller regarder là-bas, choisir Chambéry, et c'est ça qui est proposé de vivre durant ce temps de formation. Je vais vous inviter à prier. Seigneur, nous reconnaissons devant toi, parce que c'est une évidence, qu'il y a un combat spirituel qui existe. Un combat spirituel entre ta vérité, celle que tu nous dévoiles dans ta parole, la Bible, et tous les mensonges, et ils sont nombreux, qui nous entourent dans ce monde, toutes les voix discordantes par rapport à ce que toi tu dis, et qui nous entraînent d'un côté et de l'autre. Toutes ces voix auxquelles nous avons été trop attentifs, que nous avons cru, peut-être même à demi-mot, et qui effectivement nous bloque dans notre cheminement avec toi, dans notre compréhension de qui tu es, nous empêche d'avancer dans tel ou tel domaine de notre vie, parce qu'en fait nous avons basé telle ou telle partie de notre vie sur un mensonge. Seigneur, nous t'appartenons, et ça on sait que c'est irrévocable, parce que tu nous as adoptés comme tes enfants, et que toi tu es fidèle et tu es bon, et tu ne vas pas nous renier, tu ne vas pas nous jeter, tu ne vas pas abandonner celui que tu as adopté. Donc nous savons que nous t'appartenons, et nous voulons t'appartenir tout entier parce que nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, je te prie de faire remonter en nous les zones d'ombre, les zones de notre vie que nous n'avons pas exposées à ta lumière, ou que nous avons laisser assombrir de nouveau par des mensonges que nous avons entendus. Je te prie de nous les montrer pour qu'on puisse te les amener, te les apporter dans la repentance, qu'on puisse te dire « c'est vrai Seigneur, c'est vrai que là j'ai péché, C'est vrai que là, j'ai chuté, je suis tombé. C'est vrai que là, j'ai cru quelque chose qui n'est pas vrai. Seigneur, je t'appartiens. Et ce mensonge-là, je m'en délie. Je chasse maintenant l'ennemi qui vient me dire des choses fausses à l'oreille et qui me maintiennent captif dans telle ou telle partie de mon existence. Seigneur, nous voulons réaffirmer devant toi que nous t'appartenons, que c'est toi qui es notre maître, qui es notre Seigneur, le Seigneur de notre vie, que nous te faisons confiance. Seigneur, que nous te faisons confiance, y compris dans ces lieux où vraiment tu nous surprends par ta parole, parce qu'elle est tellement loin de ce qu'on peut ressentir, de ce qu'on peut peut-être observer autour de nous, qu'on a du mal à te croire. Seigneur, nous voulons prendre aujourd'hui cette décision de te croire, toi, de te croire, toi, dans ce domaine de notre vie où nous avons cru autre chose. Nous savons ce que tu dis, nous savons ce que tu affirmes, et nous nous sommes laissés submerger par la peur, par la détresse, par le chagrin peut-être. Seigneur, toi, tu es celui qui nous console. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.